Studio Tamani, voici les informations en français.
8 heures partout au Mali, mesdames, messieurs, bonjour, voici la matinale. Les 27 aigles sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue à partir du 13 janvier en Côte d'Ivoire sont connus depuis hier. Selon des observateurs, cette liste est sans surprise majeure. Les populations au centre du pays déplorent les coupures intempestives d'électricité qui sévissent actuellement dans la région. Pendant ce temps, au nord du pays, nette amélioration est constatée. La cité des rails vibre au rythme du festival Kai Koumbin depuis le 26 décembre dernier. Cette première édition est saluée par la population de la région. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ça y est, les 27 aigles devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire sont connus, le sélectionneur Eric Sekou Chelle a communiqué les noms des joueurs qui vont défendre les couleurs du Mali à cette compétition prévue du 13 janvier au 11 février prochain. Quelques nouvelles arrivées sont à noter dans le nid des aigles et plusieurs absences pour raison de blessures. Les détails avec Giada Maïga.
C'est une sélection de 27 joueurs, composée de 3 gardiens, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 8 attaquants. Une liste dévoilée à quelques jours du coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Le verdict est tombé sans assez de surprises dans cette liste qui compte l'ossature de l'équipe nationale. La seule remarque au niveau de l'attaque est la première sélection de Cyrine Doucouri, du FC Lorient, un club français, et l'absence de Moussa Dianepo. Selon l'entraîneur Eric Sekou Chelle, cette sélection a été faite selon des critères de rythme de jeu, le choix tactique et l'adaptation des joueurs par rapport aux adversaires. Les noms des médailles de bronze de la dernière Coupe du Monde U17, présélectionnés dans la liste provisoire, notamment Mamadou Doumbia, Hamidou Makalou et Bourama Kone, n'ont pas été retenus. Bien que rétabli de sa blessure, l'attaquant El Bilal Touré ne jouera pas aussi cette CAN, tout comme Ibrahim Kone et Massadio Haïdara, blessé à l'entraînement. Placé dans la poule E, avec l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie, le Mali fera son entrée en lice contre l'Afrique du Sud le 16 janvier prochain. Mais avant, les aigles défieront en amical la Guinée-Bissau le 6 janvier prochain à domicile.
Pour le consultant sportif Moussa Bouli, il n'y a pas de surprise majeure dans cet effectif. Il estime que cette sélection des aigles pourrait aller loin dans la compétition si on lui donne les moyens nécessaires. Écoutons Moussa Bouli, il est au micro de Giada Maïga.
Et je pense qu'il a fait le choix de l'effectif qui correspond le mieux pour atteindre cet objectif à la prochaine CAN. Bon, certains vont se dire qu'ils sont surpris par l'absence de Moussa Dianepo, mais ces derniers mois, Moussa Dianepo, ce n'est pas le même Dianepo qu'on a connu il y a quelques saisons. Donc, bon, ma surprise aurait été que si on avait retenu les meilleurs aiglonnés, par exemple, ceux qui figuraient dans l'équipe type de la dernière Coupe du Monde de la catégorie. Et moi, je pense qu'on a une très bonne ossature. Maintenant, tout va se jouer au niveau de la préparation là. Mais je pense que cette équipe, on lui évite les petits problèmes de management ou d'intendance. Je pense que c'est un groupe qui peut aller très loin dans cette compétition. Maintenant, c'est les moyens qu'on se donne pour atteindre ces ambitions qui feront la différence.
8h03, vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. De Bandiagara à Koro, les coupures intempestives d'électricité sont dénoncées par les populations. Selon elles, la situation devient intenable et plombe les activités génératrices de revenus. Elles demandent aux autorités de trouver des solutions aux problèmes. Les détails avec Sita Sidibé.
Il y a des semaines que la ville de Koro est plongée dans le noir. Face à cette situation, la population ne cache aucunement sa colère.
Ici à Koro, en réalité, cette situation nous dépasse. 11 jours sans moindre de quoi, c'est trop. On ne sait même plus à qui en parler.
On pensait que c'était pour quelques jours ce délestage, mais on est à un mois déjà sans électricité.
Cela fait 10 jours que nous n'avons pas d'électricité.
Et qu'il est temps de courant de Koro.
Toujours au centre du pays, à Bandiagara, le même calvaire est vécu par les habitants de la ville. Certains affirment que ce délestage a négativement impacté leurs activités.
Nous sommes des artisans, la coupure d'électricité nous fatigue. Là où le délestage est arrivé, il faut que les autorités le sachent. Nous sommes fatigués.
Je suis réparateur de téléphone. Si
ce sont les groupes qui sont en panne ou qu'il n'y a pas de carburant, qu'ils nous le disent. J'ai l'intention d'installer un panneau solaire, mais je n'ai aucun moyen.
Au nord du pays, dans la ville de Gao, la situation s'améliore peu à peu, selon des sources locales. C'est là avec l'arrivée des 5 groupes électrogènes le dimanche 31 décembre 2023.
La première édition du festival Kai Koumbé a été officiellement lancée vendredi 29 décembre dernier à Kai. C'est une initiative du mouvement Ambiko. Selon les organisateurs de l'événement, l'objectif est de donner un nouveau visage à la région et de booster son économie. Ce festival est salué par les populations. Nous retrouvons à Kai notre correspondant Mahamadou Samba Diallo.
Pour les organisateurs, ce festival vise à permettre aux Kaïsiens de mieux célébrer les fêtes de fin d'année et de créer des projets de développement. Boubacar Nyan, président de la commission d'organisation.
On avait organisé le premier réveillon en 2021. En 2022, nous avons fait également le réveillon. Nous avons transformé maintenant le réveillon en festival, intégré d'autres actions, notamment la foire commerciale. Ça a créé un engouement autour de ça.
Les populations de Kaï se sont réjouies de ce festival pour son aspect économique et loisirs.
Nous avons aimé le festival parce que nous avons fait des découvertes.
C'est bien, ça permet les gens qui se collaborer pour la.
C'était organisé uniquement à Bamako et ailleurs, mais pas ici à Kai.
Notons que ce festival va durer jusqu'au 10 janvier prochain. Plusieurs festivaliers d'ici et d'ailleurs y participent. De Kai, Mahamadou Samba Diallo pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Place à présent au dossier de la rédaction. L'État s'implique dans la commercialisation du sucre local au Mali. Le gouvernement décide de stocker 25 000 tonnes de sucre des productions de Soukala et de N-Soukala S.A. L'annonce a été faite le 27 décembre dernier par le ministre de l'Industrie et du Commerce lors d'une rencontre avec la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mali. Selon Moussa Alassane Diallo, cette mesure d'anticipation vise à assurer la distribution correcte de cette denrée de première nécessité aux populations. Qu'en pensent les commerçants et les consommateurs? Notre reporter Moussa Malé Sissoko est allé à leur rencontre.
Le sucre est une denrée de grande consommation au Mali. Ces consommateurs de sucre à Baflabé et Ségou se réjouissent de cette initiative. Cependant, ils demandent au gouvernement de faciliter l'accès aux produits.
Chaque fois, le gouvernement prend des décisions, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi.
Le gouvernement faisait beaucoup d'efforts pour subventionner. On n'a jamais senti. Alors que c'est fait pour apaiser la souffrance de la population.
Ségouya, ne connaît pas.
Que le gouvernement fixe les prix du kilo et du sac. Le gouvernement doit s'impliquer et aider les usines à produire plus.
Aladji Abdoulaye, commerçant à Tombouctou, pense qu'il faut faire respecter les prix fixés afin que les efforts des autorités ne soient pas vains.
Malgré tous les efforts des subventions, dans le souci vraiment de servir à bien le citoyen, le Malien. Mais malheureusement, nous sommes faillibles. Donc si maintenant le gouvernement voudrait prendre ça en main, certainement c'est pour le carême qui avance à grands pas.
Les productions de ces sociétés ne suffisent pas pour satisfaire les besoins des Maliens. C'est ce qu'affirme Bamba Tidjani Kanadi, président du collectif du Centre des gestions agréées du Mali, qui regroupe les commerçants détaillants, demi-grossistes et grossistes.
Ce qu'il y a, il n'y a pas assez de production au niveau national. Ça ne représente qu'un tiers de la consommation. Il faut prévoir l'investissement dans le secteur pour améliorer la qualité du produit et pour augmenter la quantité de produit en faisant participer ceux qui aujourd'hui sont les gros importateurs.
Pourtant, Omar Bitibali estime que cette initiative permettra d'amorcer le développement économique du pays. L'économiste recommande d'élargir le projet à d'autres secteurs de production nationale.
Si l'État prend des initiatives comme ça, je pense qu'il faut continuer. Cela permettra justement à l'État de générer ce phénomène-là qui a un impact très important sur l'économie nationale. À contrôler les prix, réduire l'inflation et permettre de financer son développement endogène.
Il faut noter qu'aussi dans la perspective du mois de Ramadan, mars prochain, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les opérateurs économiques la semaine dernière. Objectif, mettre en place une stratégie pour approvisionner le Mali en sucre.
Et c'est ce qui met fin donc à cette édition. Mais restez avec nous. Les infos continuent en langue nationale bamanankan tout de suite avec Aissata Diarra. Sachez que vous pouvez réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo 37 321. Vous pouvez également retrouver toutes nos productions sur l'application Studio Tamani, téléchargeable sur Play Store. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette édition mise en onde par Nuhum Djiré. Merci et à la prochaine.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Au Mali, la prévalence de l'infection par le VIH-Sida chez les femmes enceintes est estimée à 0,5%. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida a indiqué qu'un dépistage volontaire est offert lors des consultations prénatales. Les femmes dont la séropositivité est confirmée bénéficient également de services de conseil, un traitement antirétroviral pour éviter une contamination du nourrisson. Mais les femmes infectées par cette pathologie dénoncent les contraintes liées à l'accès à ces services. Elles se disent stigmatisées. Une d'elles témoigne dans ce magazine dédié aux femmes du Mali. Il est réalisé par Fatoumata Kodjo avec le concours de nos correspondants.
La femme peut transmettre le VIH à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. C'est pourquoi les femmes subissent des tests volontaires de dépistage du VIH pendant la grossesse dans de nombreuses aires de santé au Mali. Une étape importante qui permet une meilleure prise en charge du bébé et de sa maman en vue d'éviter toute contamination. Docteur Mamadou Koulibaly, point focal SIDA au CCRF de Bankas.
Et si le test revenait positif, ça permet de mettre la dame sous traitement ARV. Quand ce traitement est bien conduit et bien suivi par la dame, sa charge virale va être indétectable. Entendez par charge virale la quantité de virus qui circule dans le sang de la dame. La dame n'a aucune chance de transmettre la maladie à aucune autre personne, ni son conjoint, encore moins son enfant.
Cette année, le taux de prévalence de la transmission mère-enfant du VIH est de 33,33% à Yoroso. Selon Boubacar Bachili, médecin au CCRF de Yoroso, les femmes enceintes reçoivent gratuitement des conseils lors de la consultation prénatale.
De 2022 à cette année, nous avons en moyenne 5 femmes mères séropositives. Si les femmes tombent enceintes, elles doivent d'abord bénéficier des consultations prénatales. Donc, elles sont conseillées et elles doivent faire un dépistage par rapport au VIH-Sida. La prise en charge, n'est-ce pas, est totalement gratuite.
Sur le plan national, près de 500 000 femmes enceintes subissent les tests de dépistage. Le taux de prévalence tourne autour de moins 1% selon Ousmane Traoré, responsable planification et suivi évaluation du Haut Conseil national de lutte contre le sida.
On a une estimation du nombre de grossesses annuelles qui se chiffre en 2022 vers les 1 100 000. On a environ 660 000 femmes qu'on voit en CPN. Les femmes qui acceptent de faire les tests de dépistage sont autour de 500, 549 000, 550 000 par an. Il y a environ une prévalence autour de 0,5%.
Les femmes dont la séropositivité est connue sont confrontées à de nombreuses contraintes, notamment l'accès aux soins de qualité. Comme en témoigne Mme Mariam Touré, présidente de l'Association des personnes vivant avec le VIH.
Nous avons la faible prise de décision des femmes au dépistage et à la prise en charge.
Ensuite, les difficultés d'avoir accès aux résultats du PCR des enfants de mères séropositives. Nous avons la discrimination et la stigmatisation en milieu de soins et dans la communauté. On a constaté des rejets, des divorces.
Et pourtant, l'ONU-SIDA affirme soutenir ces femmes infectées par les VIH à travers les plaidoyers et la mobilisation des ressources. C'est ce que nous explique Dr Bassirou Diallo, médecin spécialiste en santé publique à ONU-SIDA.
Nous avons appuyé le Mali à avoir un cadre stratégique national de lutte contre le SIDA. Une des cibles du cadre stratégique, ce sont les femmes enceintes. On appuie aussi des projets spécifiques à travers les associations telles que le REMA+, le réseau malien des personnes vivant avec le VIH. Nous avons déjà eu à faire beaucoup d'activités.
Les spécialistes de la santé affirment que la meilleure prévention reste la connaissance de son statut sérologique. Ainsi, ils exhortent les femmes enceintes à se faire dépister.